de Luxi Gallo Santos, administration des vocations.
Eh ben merci beaucoup, hein, et puis merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je précise que ce livre est tiré de ta thèse. Ce que je vais faire d'abord, c'est présenter l'auteur et le bouquin, et puis après j'en viendrai à mes questions. Simplement pour rendre le contexte plus transparent, si je me permets de tutoyer Luc, c'est que en fait, ça fait une dizaine d'années qu'on partage déjà pas mal d'informations sur Pôle emploi, qui est une institution particulièrement fermée. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a une certaine familiarité entre nous. On s'est beaucoup lu. En ce qui me concerne, je cite régulièrement son travail. On a également écrit des choses ensemble, qui n'ont malheureusement pas encore été publiées. Voilà, tout ça pour dire que il y a quand même une très forte interconnaissance. Mais voilà, après cette invitation, elle m'a quand même donné l'occasion de te lire de manière encore plus approfondie que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, et j'ai trouvé ça très très intéressant comme exercice, donc encore merci. Alors, avant toute chose, je vais peut-être rappeler ton parcours, pas pour te vendre, hein, mais parce que non, ça me semble important de savoir où tu es passé pour saisir tes références et ton cadre biblio. Après, je parle sous ton contrôle, hein, mais je trouve que c'est assez éclairant, en fait, de ce qui te structure. Donc d'abord, tu as fait Sciences Po Bordeaux, donc une approche, une formation classique à la science politique et à toutes ces circonvolutions. Ensuite, tu as suivi le master ETT pour enquête terrain-théorie, dont les cours sont délivrés à l'ENS Jourdan, qui est rattaché au centre Maurice Alvax. Donc tout ça est très tourné vers l'ethnographie. Enfin, c'est le point de vue que j'en ai, après peut-être que c'est... Et puis, par ailleurs, c'est un lieu qui me semble assez important de la production de chercheurs et de chercheuses en France. Je ne maîtrise pas non plus toute la proportion, mais si on regarde toute la promotion qu'a fait le master avec toi, j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont trouvé leur place dans l'enseignement supérieur, malgré le manque de place. Ensuite, tu t'es lancé dans une thèse, non pas justement avec des gens de Jourdan, ce qui aurait pu être la solution de facilité, mais en allant chercher des ressources à la fois en sciences politiques et en sociologie, avec un directeur à Strasbourg et un directeur à Paris 8, donc Laurent Jean-Pierre et Vincent Dubois, pour ne pas les nommer. Et là aussi, je pense que ça marque assez fortement ton héritage intellectuel, mais bon, tu ne les avais pas non plus choisis pour rien, puisque vraiment, il y a un souci de croiser la science politique et le souci pour l'ethnographie. Puis ensuite, ça n'apparaît pas dans le bouquin, mais tu as fait un post-doc à l'IRISO à Dauphine, et tu es devenu, en novembre dernier, maître de conférence à l'université de Marseille-Aix, en étant rattaché au laboratoire L'Est. Voilà, donc maintenant je vais présenter ton œuvre. Alors je parlerai un peu de sa genèse d'abord, parce que c'est un point important, il me semble, c'est que c'est donc un ouvrage qui est tiré de ta thèse, et qui a bénéficié d'un prix de thèse des éditions Dalloz. Alors, Dieu sait que c'est pas évident de publier sa thèse, mais qui t'ont proposé, on en parlait à l'instant, hein, mais je n'avais pas ces infos-là avant en préparant, qui t'ont proposé de publier ta thèse quasiment en l'état. Ce qui est un point sur lequel donc, j'aimerais t'entendre, puisque que tu nous expliques un peu les opérations que tu as opérées, l'intervention que tu as opérée sur le manuscrit entre la thèse et le livre. Pourquoi c'est une question qui me semble importante? Parce que une de mes plus grandes surprises en ouvrant le livre, c'est que, en fait, même sans modification majeure, en fait, ça n'en est pas moins intéressant et pas moins lisible. Pour être très franc, je m'attendais un peu à souffrir. Et en fait, ça se lit très facilement. Voilà, donc j'invite toutes les personnes qui seraient à l'orée de la rédaction, et je parle aux gens qui pourraient regarder cette vidéo, à l'orée de la rédaction, à jeter un œil au style du livre, parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment inspirant, en fait, comme style. Puisque tu construis des phrases qui ne sont pas du tout empoulées, pour autant, c'est très rigoureux scientifiquement. Et néanmoins, tu utilises la première personne sans pour autant forcer le côté héroïque du chercheur qui cherche, qui trouve, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal comme style pour s'en inspirer. Voilà. Maintenant, le propos de ton ouvrage. Quelle est l'énigme qui va porter ton livre? En gros, ton objet, hein, comme le titre l'indique, est très éclairant là-dessus, c'est la mise en administration d'un traitement spécifique du chômage des artistes. Donc derrière, il y a une forme d'énigme qui te sert de problématique générale. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un segment aussi réduit de la population, en termes statistiques, fasse l'objet d'une telle attention et d'un tel particularisme? Et donc, tu vas aller te lancer à la recherche d'une explication, de toutes les explications possibles de cette incongruité. Et c'est ça qui donne le titre à ton bouquin. Hein. Comment est-ce qu'on peut administrer bureaucratiquement une chose aussi subjective que le talent et la vocation d'artiste? Et là, tu ne te laisses pas compter, hein. Tu y vas, tu vas chercher. Ça se rapproche d'une thèse que j'ai un peu suivie, qui a été menée sur la même période, en gros 2008-2015, on va dire, qui a été menée par Jérémy Vandenbunder à Versailles-Saint-Quentin, qui s'appelle « La pédagogie de la création ». Et là, on voit bien l'écho que ça peut créer, quoi. C'est une thèse qui consiste à se demander comment on apprend finalement le mythe de l'autodidaxie. Et toi, tu t'intéresses à une autre forme de construction sociale, non pas la pédagogie, mais la bureaucratie. Et tu as pour cela deux objets, deux terrains. Premier objet, l'ANPE, puis Pôle emploi spectacle, c'est-à-dire des agences ou des équipes de Pôle emploi qui sont spécialisées sur les métiers du spectacle. Et puis, deuxième terrain, le RMI, puis le RSA artiste, qui ne constitue pas un segment officiel du RMI, hein, comme pourrait l'être le RMI, le RSA SOC ou d'autres. Ça renvoie surtout à des formes spécifiques d'accompagnement des allocataires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met autour du versement du revenu, étant entendu que malgré le remplacement du RSA par le RMI en 2008, en fait, pour éviter que les gens se complaisent dans leurs minima sociaux, il a toujours été mis en place un certain suivi des personnes qui en bénéficiaient. Et donc c'est ça que tu suis, l'accompagnement spécifique des artistes. Donc deux terrains et deux espaces géographiques, Paris et Bordeaux. Paris où se concentre l'activité artistique, et puis Bordeaux où tu as des attaches historiques qui t'ont permis d'ouvrir le terrain. Voilà, pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, donc tâchons un peu de résumer ton propos maintenant. En gros, tu expliques que, à la fois dans le temps et sur différentes scènes, il y a plusieurs arguments qui viennent expliquer les raisons pour lesquelles il existe un traitement spécifique des chômeurs qui sont artistes, ou des artistes qui sont chômeurs, comme on voudra. Premier argument, le marché du travail est tellement spécifique, le marché du travail artistique, voire les marchés du travail artistique, on y reviendra, ces marchés sont tellement spécifiques dans leur fonctionnement que ça supposerait des bureaux de placement spécifiques, une spécialisation. Donc ça, c'est le premier argument, la spécificité de la matière. Ensuite, deuxième argument, le public, cette fois, le public des artistes, aurait des demandes et des projets, voire des comportements, qui sont trop spécifiques pour pouvoir être évalués, monitorés par des agents classiques. Alors, ça ressemble un peu au premier argument, mais ce n'est pas tout à fait le même. Tandis que le premier argument est plutôt d'ordre économique, c'est-à-dire une question d'efficacité. Pour que l'intervention publique soit efficace sur ces marchés-là, il faudrait spécialiser la bureaucratie. Là, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la relation de guichet, voire de la relation... Enfin, on est plus chez Robert Castel, quoi. C'est-à-dire que pour monitorer, faire la part entre les bons et les mauvais pauvres, pour comprendre les trajectoires des individus qui sont susceptibles de nous la faire à l'envers, il faut spécialiser les agents. Il faut spécialiser la relation de guichet. Troisième argument, qui va être très court dans l'histoire, mais qui me semble majeur, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui éclaire aussi l'existence d'un service public de l'emploi dans son ensemble, c'est qu'il y a un investissement public dans la culture qui est assez massif et qui est très massif suivant les époques, notamment 81-83. L'investissement public est tellement massif qu'il faut absolument une bourse aux emplois pour rafraîchir un peu les rouages, pour accélérer le pourvoi des emplois que ça contribue à créer. Nouvel argument récurrent sur l'ensemble de la période, et ce depuis les années 60, les artistes disposent d'un régime d'assurance chômage particulier, la fameuse intermittence, régie par les annexes 8 et 10 de la Convention d'assurance chômage. Donc, puisqu'ils ont un système d'assurance chômage spécifique, eh bien, il faut les suivre de manière spécifique. Alors là, il va y avoir deux sous-arguments, soit pour les suivre, pour les aider à accéder, soit pour les contrôler, pour éviter qu'il y ait des abus. Nouvel argument, autre argument qui explique l'existence, c'est un marché structurellement déficitaire, économiquement. Donc, puisqu'on aime la culture, il faudrait soutenir les précaires, en cas de crise notamment. Dernier argument, peut-être, mais il y en a peut-être d'autres, hein, il y a beaucoup de gens qui se prétendent artistes, mais il y en a peu qui peuvent en vivre. Donc, il convient de ce fait de suivre les personnes qui s'en réclament pour essayer de les rendre réalistes. Réaliste dans un sens, c'est-à-dire effectivement vous avez tout ce qu'il faut, donc allez-y, ou vous êtes un doux rêveur, trouvez quelque chose d'alimentaire. Donc voilà, c'est les arguments que j'ai pu noter, il y en a peut-être d'autres, hein, si t'en as vu d'autres et que j'en ai oublié, n'hésite pas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu prends bien le temps de préciser que le poids respectif de ces arguments, et là je pense qu'on est au cœur du sujet sur les institutions, le poids respectif de ces arguments qui justifient l'existence des institutions, eh bien il varie dans le temps. Et ces variations vont influencer les rapports de force au sein et autour de ces institutions. Pour le dire très clairement, et là je vais faire je vais faire des césures dans lesquelles tu ne te retrouves pas du tout, mais qui me permettent moi de modéliser un peu ton travail. En gros, dans les années 70, c'est plutôt l'argument du particularisme qui l'emporte, marché du travail spécifique. Dans les années 80, ça va être plutôt la question de l'investissement public, avec Jack Lang, etc. Dans les années 90, ça va être plutôt la question de l'appauvrissement. Dans les années 2000, ça va être plutôt la question quasiment idéologique d'une lutte des municipalités et des départements de gauche contre un gouvernement de droite qui souhaite mettre au pas les intermittents. Donc on va financer la culture parce que le gouvernement ne veut pas le faire. Et on va soutenir les artistes précaires parce que le gouvernement les rend précaires. Et puis dans les années 2010, une certaine convergence vers la lutte contre la fraude et les doux rêveurs. Et donc, encore une fois, ça, ce sont des tendances. Et j'ai bien conscience que c'est de la modélisation. Et ça ne fait jamais disparaître les arguments contradictoires. Parce que tu montres bien que, en fait, ces arguments vont donner lieu à des solutions institutionnelles. Mais ces solutions demeurent à chaque fois fragiles, justement parce qu'elles sont pétries, ces solutions institutionnelles, elles sont pétries de ces arguments contradictoires. Je vais essayer de faire le point sur tes deux terrains. Sur deux éléments qui me semblent les plus structurants de tes résultats. D'abord, les agences ANPE puis Pôle emploi spectacle. Elles se positionnent à l'origine comme régulateurs du marché du travail artistique ou des marchés du travail artistique. Et donc, ça va conduire les agents à une spécialisation sectorielle qui va les rendre plus compétents, mais malheureusement, jamais au point d'obtenir la pleine reconnaissance des professionnels du spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont beau maîtriser sur le bout des doigts c'est quoi la versification, c'est quoi le ballet, c'est quoi la différence entre la scène contemporaine et la scène lyrique. En fait, ils restent toujours, malgré toute la monstration de leurs compétences, ils restent toujours peu crédibles du point de vue de leurs usagers. Donc, fragilité du côté des usagers, mais aussi fragilité du côté de la structure bureaucratique, une certaine délégitimation du point de vue de la bureaucratie qui les entoure. Parce que, de fait, ils ne peuvent plus rentrer dans les clous d'une administration bureaucratique aux règles standardisées, impersonnelles, etc. Et là, tu soulignes deux points qui me semblent les plus éclairants. C'est, d'une part, la question des horaires, tout bêtement. Pour s'ajuster à ce public, il faut travailler en soirée, il faut travailler le week-end, c'est-à-dire au moment où les spectacles ont lieu. Et ça, ça pose problème à l'organisation d'une bureaucratie impersonnelle et standardisée. Et puis, d'autre part, quelque chose de plus fondamental, mais aussi de plus charnel, plus incarné, c'est la question de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est-à-dire que pour tenir, pour se spécialiser, les agents ont tendance à mobiliser leur avis propre, leur fort intérieur, leur jugement personnel sur la trajectoire et le travail des artistes qu'ils suivent, leur jugement, en fait, et un jugement artistique, hein, qui n'est pas un jugement bureaucratique, au risque du coup de se montrer injuste, inéquitable, de se montrer anti-bureaucratique. Et on va retrouver une fragilité comparable en ce qui concerne le RMI puis le RSA artiste. Pourquoi ? Parce que les agents qui s'occupent de ce public, qui, rappelons-le, tu le précises jamais, mais je ne sais pas à quel point c'est... Peut-être que c'est moi qui focalise, hein. Mais il faut avoir en tête que les agents, de mon point de vue, mais c'est peut-être un cliché, qu'on appelle ça, les assistantes sociales qui s'occupent des RMistes et des gens qui sont bénéficiaires du RSA artistes sont un peu moins diplômées que les conseillers Pôle emploi. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Hein. Mais du coup, elles prennent encore plus le risque que leurs homologues du Pôle emploi du mépris de classe. Parce que, de fait, quelle que soit la place relative par rapport aux agents Pôle emploi, de toute façon, elles sont toujours moins diplômées et moins cultivées que leurs allocataires qu'elles sont censées suivre. Et donc, pour s'en défendre, elles vont élaborer deux solutions qui sont en partie institutionnelles. La première, à nouveau, comme chez Pôle emploi, c'est la spécialisation. Mais une spécialisation qui n'est jamais complète, jamais complètement reconnue et qui fait prendre le risque, comme le dit l'une de tes enquêtées, de rater Mozart. On a peur de rater Mozart et donc d'être méchant avec quelqu'un qui serait en fait le Basquiat, quoi. Elle dit Mozart, mais ça pourrait être Jean-Michel Basquiat. Et puis dans le même temps, en fait, déléguer à des prestataires privés qui ne vont pas dire autre chose qu'elle, mais qui sont des artistes. Et donc qui ont la légitimité de dire. Donc là, c'est des prestations, c'est des marchés publics. Marchés publics de prestations qui sont tenus par des artistes ou d'anciens artistes et qui ont les ressources symboliques pour dire on va peut-être s'arrêter là ou vous avez vos chances. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe autour duquel toute ton analyse s'enroule, c'est que les artistes et plus généralement les mondes de l'art sont profondément soutenus par l'administration, on peut même parler de perfusion, subvention aux événements, subvention aux œuvres, même directement. Enfin, on peut penser au, c'est quoi, c'est le Centre National Cinématographique. Je crois pas l'avoir vu évoqué, mais peut-être que je suis passé trop vite. Et puis la solidarité aux artistes qui passent d'un contrat à un autre. Et puis effectivement cette question du régime d'intermittence. Mais cette collusion est largement masquée, voire rejetée par les acteurs eux-mêmes, parce que elle va remettre en cause les différents mythes qui sont structurants de ce champ. Notamment le mythe de l'autodidaxie, mais aussi celui de la bohème. Voilà, donc après, pas sûr qu'on revienne dessus, mais j'ai trouvé ça assez savoureux de me dire que finalement, derrière l'idée de bohème, il y avait l'État. Voilà, donc à ce stade, maintenant que j'ai présenté en gros le contenu, je vais peut-être essayer de présenter ton cadre théorique pour fournir le plus d'éléments possible aux personnes, à l'audience. Voilà, ton cadre théorique, mais je dois avouer que j'ai trouvé qu'il était assez dur à identifier, ce qui n'est pas un reproche, parce que clairement on voit dans tout ton travail et puis dans les termes que tu utilises, etc., que en dernière instance, ce que tu veux faire, enfin ce que tu fais en tout cas, c'est que tu renforces les travaux qui portent sur la discrétion des fameux street level bureaucrates, c'est-à-dire tout un champ de travaux américains puis français qui ont montré à quel point l'action publique ne prend sa forme analysable, finalement, qu'au contact du public, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas aller voir la genèse, les visions du monde, les instruments, mais qu'en dernière instance, cette genèse, les visions du monde, tout ce qui est embarqué en termes de théorie, et puis les instruments eux-mêmes, en fait, ne peuvent être analysables qu'à partir du moment où on se rend compte de ce qu'ils donnent au contact des dispositions et des ressources de leur public. Donc voilà, voir dans des interactions comment se déploient ou non les ressources des uns et des autres. Donc voilà, tout ce que je viens de dire sur la force des institutions, mais aussi la force des dispositions des guichetiers et puis la force des dispositions du public. Voilà, donc on va trouver une filiation et puis même, on peut le dire, tu équipes aussi, enfin tu renforces aussi ce champ-là, Dubois, Lipski, Spire, Ciblot, etc. Donc voilà, ton dada, ça a l'air en partie de renforcer ce courant, et c'est assez lié, mais tu n'hésites pas à retourner aux sources avec l'école de Chicago, retourner à l'école de Chicago, tu mobilises les travaux sur la stigmatisation, bien entendu, la division morale du travail, mais aussi les systèmes des professions, à la façon de Abbott ou Fridson, dont je mélange toujours les apports. Donc une ligne assez claire, l'ethnographie, et on pourrait dire la réification d'un certain nombre de rapports de force dans des situations ethnographiques. Mais t'en es pas pour autant sectaire, puisque dans ton analyse, tu vas en fait être assez syncrétique. C'est-à-dire que tu vas citer Crozier sans utiliser de pincettes. Dès qu'il s'agit de comprendre les dynamiques un peu méso dans les organisations, tu vas aussi aller chercher chez François Vatin ou chez Alexandra Bidet des éléments sur la valeur que les acteurs donnent à leur travail, la valeur qui leur est attribuée, la valorisation sur des scènes marchandes un peu plus équipées. Et puis, tu vas mobiliser assez régulièrement des travaux plus pragmatistes à travers le travail de Jean-Marc Veller, que tu cites régulièrement, il me semble. Pareil, sans aucune forme de pincette. Voilà, tu es très syncrétique. Et puis, il y a une référence qui revient en boucle et qui structure, je crois, non pas tant ta méthode d'enquête, mais peut-être... Mais après, peut-être que je projette. Mais l'horizon que tu te fixes, c'est Bourdieu. C'est-à-dire que tu ne cesses jamais de rappeler que les positions, les prises de position de tes acteurs sont pour toi un symptôme d'un champ que, bien sûr, tu explores à tâtons parce que tu fais de l'ethnographie, mais que tu as envie de cartographier quand même dans son ensemble, et pas seulement de cartographier, aussi d'en comprendre les dynamiques. Et donc, tu vas répéter très, très régulièrement qu'il y a un intérêt majeur à avoir une approche que tu appelles relationnelle de l'action publique, c'est-à-dire, voilà, en gros, une approche, si j'ai bien compris, hein, qui va inscrire les rapports sociaux locaux dans les cadres plus globaux des rapports sociaux d'ensemble. Donc, voilà, ne pas faire disparaître la domination sous prétexte que tu aurais une approche ethnographique. Et on en revient à la question des institutions qui structurent la discussion du jour, c'est-à-dire que pour toi, enfin chez toi, la question des institutions et de l'institutionnalisation va traverser l'ensemble de tes résultats et de leur exposition. C'est-à-dire que tout le long, tu vas te demander comment les choses tiennent, et sans jamais te dire « elles tiennent ». Tu vas essayer de comprendre pourquoi elles tiennent. Et c'est là où ton objet est pas mal, c'est qu'il y a un côté un peu miraculeux de l'existence d'une telle bureaucratie du particularisme qui fait que tu peux toujours en revenir à cet étonnement. Comment ça se fait ? Voilà, et donc tu vas très régulièrement faire référence à la notion de Bourdieu entre l'histoire faite chose et l'histoire faite corps. Et du coup, tu vas te demander dans un sens, comment est-ce que l'histoire faite corps, c'est-à-dire les acteurs sociaux en chair et en os, avec leur disposition, leur histoire, leur socialisation, ils vont en venir par leurs stratégies qui peuvent échouer mais qui vont parfois fonctionner aussi, à ériger, à durcir des cadres institutionnels. Et puis en retour, tu vas te demander comment ces structures devenues un peu dures en viennent à influencer et à socialiser des corps. Et tu ne fais pas œuvre de déterminisme en la matière, hein. Tu prends toujours le soin de mentionner que dans les créations, que ces créations institutionnelles vont parfois échapper à leur créateur. Donc un truc un peu voilà, super intéressant sur la question de l'institution, c'est-à-dire voilà, le type qui a une stratégie, qui parvient à la réalisation de sa stratégie, ce qui pourrait abonder dans le sens un peu psychologiste de l'homme providentiel, mais en fait on se rend compte que ben non, en fait, son bébé finalement lui échappe. Et puis inversement, tu vas toujours mentionner quelles sont les variations dans la façon dont les acteurs vont venir tenir les rôles qui leur sont attribués par les institutions qu'ils peuplent. Voilà. Et à nouveau, hein, ton objet se prête bien à une telle approche bourdieusienne, puisque tu croises sociologie des politiques de l'emploi et sociologie des politiques culturelles, en fait, tu te confrontes très régulièrement à des enjeux simplement de hiérarchisation des activités sociales, puisque c'est un gimmick qui parcourt tout le bouquin. En fait, le culturel, c'est noble, le social, ça ne l'est pas. Et donc, ça va venir, ça, structurer les rapports que vont avoir les individus à leur travail quotidien, ce qui ne conduit pas toujours à une domination aussi intuitive que cela, puisque dans les départements, puisque la culture, c'est noble, on ne l'a pas donné au département. Mais du coup, ça fait que dans les départements, l'argent va sur le social et sur l'emploi. Et donc, du coup, dans un département, en fait, les gens qui bossent dans la culture peuvent avoir tendance à se rapprocher du social pour choper un peu d'argent. Donc voilà, malgré ton intérêt pour le guichet, pour ce qui s'y passe, tu n'évinces jamais la question de la domination. Et on pourrait même dire que c'est ta boussole, moi j'ai l'impression, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire, comment on peut faire en sorte de mobiliser une approche micro-sociologique qui laisse aux acteurs leur degré de liberté sans jamais renier l'apport d'une approche bourdieusienne d'ensemble. Et de ce point de vue-là, hein, c'est très convaincant. En fait, tu nous montres que les ressources qui sont fournies ou non par l'ensemble de la structure symbolique des activités, c'est en s'appuyant sur ces ressources que les acteurs peuvent élaborer ou non et tâcher de mettre en œuvre leur stratégie individuelle et collective. Et donc, en découle, j'y reviens, un décor et des choses. C'est un élément assez passionnant de ton travail. Un point rapide peut-être sur la méthode, des entretiens en très grand nombre avec des acteurs de tout type, ça va du RMiste au fonctionnaire, mais aussi des cadres intermédiaires, le directeur général de Pôle emploi, des artistes, des bureaucrates. Et tu vas croiser ces matériaux qui te permettent plutôt d'accéder aux représentations avec des observations de l'état au guichet. Ça, ça te permet d'accéder davantage aux pratiques, on va dire, à cette fameuse ruse de la mise en œuvre, pour parler comme Vincent Dubois. Et puis, tu vas essayer de remettre le tout dans une perspective historique via un très très gros travail d'archives, ça il faut vraiment le souligner, que tu vas expliquer dans le cadre de ce que tu appelles... Je ne sais pas si tout le monde est familier de cette approche, mais moi, c'est en écrivant avec toi que j'ai découvert. Hein, c'est ce que tu appelles l'ethnographie socio-historique que tu empruntes à Gilles Paulet et Renaud Père. Et ce que tu mets derrière, mais peut-être que je comprends mal, hein, c'est que c'est en fait essayer de comprendre toujours le champ de force dans lequel l'archive s'insère, c'est-à-dire les dispositions et les positions des acteurs qui les produisent, les conséquences qu'ils attendent de ces prises de position, et puis, ben, si possible, mais ça, c'est toujours... tu prends toujours le soin de parler sous forme d'hypothèse, quelles conséquences elles ont eues, effectivement. Donc voilà, c'est... Là, il y a vraiment un volume impressionnant de données, le tout sans jamais que le lecteur se sente débordé. T'es pas là à jouxter, cataloguer, à faire un catalogue de tes matériaux. Tu les analyses dans le cadre de ta réflexion qui reste toujours ancrée dans ce matériau. Et là, pour le coup, s'il y a des gens qui sont en train de rédiger leur thèse, qui lisent ton bouquin, je pense qu'il faut les rassurer sur le fait que, enfin, sur les degrés d'exigence de la profession, je pense que tu as amassé des matériaux qui sont un peu au-dessus de la moyenne de ce qui est attendu et qu'on n'est pas obligé de saturer à ce point-là son objet pour parvenir à écrire une thèse. Voilà. Il ne faudrait pas que les lecteurs se sentent écrasés par ce volume de données qui est assez impressionnant. Alors maintenant, la structure de l'ouvrage, avant que j'en vienne à mes questions. Donc là, tu vas prendre ton objet par tous les bouts. En le lisant, on a vraiment l'impression d'une origami. C'est-à-dire que tu vas déplier ton objet sur tous les pans pour essayer de ne rien laisser dans l'ombre. Voilà. Il y a peut-être même quelque part une certaine... pas comment on pourrait dire, un certain stress, quoi, de pas oublier le truc, quoi. Donc d'abord un chapitre socio-historique, là donc tu vas exploiter tes archives et des entretiens biographiques, et là tu vas chercher la genèse et l'institutionnalisation du champ que tu as par ailleurs étudié sous une forme plus contemporaine par l'observation et des entretiens. Donc tu essayes de comprendre, voilà, là encore, ce que Paulet et Père appellent la mise en administration du chômage artistique. Donc tu vas retourner à l'origine du dispositif RMI puis RSA Artiste, tu vas retourner à la naissance de la NPE Spectacle, et tu ne verses pas du tout d'ailleurs dans la, je sais pas comment on appelle ça, le chauvinisme de l'objet, je sais pas si ça existe, mais t'essayes bien de montrer que s'il y a des équivalents au 19e siècle, même si ça naît dans les années 70 pour l'un, pour la NPE, dans les années 80 pour le RMI, il y a des équivalents au 19e siècle, c'est pas tout nouveau. Et ce qui est le plus marquant dans ce chapitre, c'est que tu montres à quel point les enjeux de ton objet, le chômage des artistes, c'est en fait très largement structuré par des histoires spécifiques, des politiques culturelles d'un côté, des politiques de l'emploi de l'autre, et que, en fait, au point de concours de ces deux histoires, eh bien, les individus ont des ressources pour agir ou pas. Et les deux histoires ne sont pas complètement synchrones, malgré les alternances politiques qui pourraient paraître... assez similaire, en fait, puisqu'il y a une diversité d'acteurs, en fait, il y a pas complète... Les deux histoires de la politique culturelle et la politique de l'emploi ne sont pas complètement synchrones. Et finalement, le livre pourrait presque s'arrêter là, au bout de 100 pages, puisque tu as, en fait, en partie répondu à ta problématique. Pourquoi ? Comment expliquer l'institutionnalisation ? Mais tu t'arrêtes pas là, en fait. Et là, tu vas partir enquêter sur les rapports sociaux et les comportements qu'induit cet espace social dont tu as chroniqué finalement la naissance, et tu vas essayer de prendre ton objet par tous les bouts dont on pourrait le décrire. Deuxième chapitre, c'est la question du marché. Tu prends au sérieux cette idée que mobilisent tes acteurs tout le temps, celle de spécificité du marché du travail artistique, et tu vas essayer de comprendre comment la bureaucratie va se transmuer pour intervenir sur ce marché, et puis inversement, la façon dont le marché est régulé par l'intervention publique. Et ce que je trouve ici le plus éclairant, et qui va recouper d'autres travaux qui m'intéressent sur l'intervention publique en matière économique, c'est finalement que l'État s'appuie très largement sur les dynamiques du marché du travail artistique pour essayer d'ajuster son intervention. Ce que je veux dire par là, c'est que les administrations, et notamment Pôle emploi, attendent en fait que le marché ait fait son marché que le marché ait fait son travail de sélection et d'hiérarchisation des personnes avant finalement de se décider à intervenir pour donner un coup de main à ceux qui sont les moins favorisés par les rouages du marché. Et donc, il va en résulter 1000 contradictions puisque l'administration se prive dès lors de toute capacité à peser sur les cadres du marché, sur ses règles, puisque finalement, l'administration se met dans une position où il a besoin que le marché fonctionne de manière presque spontanée pour savoir quel public traiter. Et ce que je retire de ce chapitre, c'est que cet état de fait n'est pas tellement la seule conséquence des évolutions de l'idéologie dominante. C'est pas seulement la volonté de laisser le marché libre et non faussé, et puis après on va intervenir pour résoudre ce qu'on appelle les effets pervers. C'est aussi une stratégie défensive de l'État qui, faute de moyens pour traiter la totalité, d'avoir le monopole, faute d'avoir les moyens d'avoir le monopole, finalement s'appuie sur le marché pour réduire la cible de son intervention. Et ça, c'est un truc assez récurrent dans ton analyse, c'est que finalement, il y a cette question de si on intervient trop, on va avoir trop de gens à traiter et on n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a semblé important, c'est que finalement, l'État se sent absolument pas légitime ni capable d'intervenir sur les jugements de valeur qui structurent le marché du travail artistique. Et ça peut paraître quand même assez intuitif à la base, de se dire ouais, l'État laisse le marché, voilà, c'est quand même un discours assez récurrent. Sauf que dans ton cas, on est à nouveau sur un marché qui vit sous perfusion publique. D'où des balles dans le pied continuelles. Et en fait, tu résous toi-même ce paradoxe en montrant qu'en fait, il y a une noblesse qui est attachée à sélectionner les œuvres en fonction de critères élitistes et exclusifs. Et puis, de l'autre, il y a une délégation du sale boulot qui est la récupération des moins reconnus. Dans le troisième chapitre, là, tu vas te concentrer sur les relations de guichet. Tu vas montrer toute l'ambivalence du traitement de ce public particulier pour les agents. Donc, pour le dire vite, c'est que c'est particulièrement gratifiant de travailler avec eux, mais ils acceptent jamais les conseillers comme de véritables égaux, ce qui peut conduire à beaucoup de scènes de mépris de classe, pas toujours facile à supporter. Quatrième chapitre, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quatrième chapitre, tu vas à la rencontre du public, donc c'est ces artistes qui bénéficient de l'assurance ou de l'assistance. Là, tu montres bien quelles sont les conditions sociales de l'acceptation de ce double rôle d'assisté artiste ou d'artiste assisté. C'est-à-dire qu'ils doivent en gros trouver des ressources qui réduisent la pression matérielle, notamment bêtement via les parents, et plus particulièrement, ça c'est central, les frais de logement. Et puis de l'autre, toutes les ressources qu'ils vont mobiliser pour essayer de masquer le caractère subventionné du travail d'artiste. Donc, essayer de se construire comme quelqu'un de bohème et pas de RMiste. Et enfin, tu vas montrer dans un dernier chapitre comment l'État, via son administration et ses guichetiers, va se borner à faire en fait vigile à l'entrée sur le marché du travail artistique, en accompagnant ou en excompagnant les bénéficiaires de l'assurance ou de l'assistance. Voilà, j'en viens maintenant pour les 10 minutes qui me restent aux quelques questions que ça a fait naître chez moi et que j'avais jamais pensé à te poser. Alors, d'abord, il y a deux références qui me semblent absentes, et tu as une telle profondeur biblio que j'imagine, en fait tu les connais, et c'est sans doute un choix, mais du coup ça m'intéresserait de savoir finalement qu'est-ce que tu aurais pu en faire ? Voilà, prendre un peu des risques, de toute façon on s'en fout, t'es recruté, t'as un beau bouquin. Non mais, première référence, c'est... et puis ce qui m'intéresse, c'est finalement, j'étais un peu frustré à la lecture en me disant, puisque la thèse se tient, puisque c'est intéressant et stimulant, qu'est-ce qu'il aurait pu en faire ? Première référence, c'est donc Howard Baker sur les mondes de l'art. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé à la lecture de ton texte. C'est que, en fait, sur tous les concepts, tu es particulièrement constructiviste. À chaque fois, tu assumes le fait que la réalité n'existe pas vraiment tant que les acteurs sociaux ne se sont pas battus pour lui donner une certaine tangibilité. Mais il me semble qu'il y a une notion que tu discutes moins que les autres, quand même, c'est celle d'art. Ou alors, peut-être que je t'ai mal compris. Mais, et clairement, tu ne vises pas du tout dans le mythe du talent, de la griffe, etc. Mais tu acceptes quand même parfois, il me semble, l'idée selon laquelle le marché du travail artistique existe et qu'en tout cas, il serait un peu spécifique. Mais peut-être que c'est une stratégie d'exposition des résultats que j'ai mal comprise. Mais il me semble que ça aurait été intéressant de mobiliser Baker pour rajouter, bon, ok, une couche de complexité, c'est-à-dire de se poser la question ce qu'il montre, c'est-à-dire que dans le champ de l'art, la désignation de qui est artiste, qui ne l'est pas, est historiquement située, qu'elle découle d'une division du travail supposé créatif, donc de lutte, et qu'elle va très largement, cette division du travail, structurer largement le traitement social des supposés artistes ou des supposés travailleurs. Alors effectivement, ça aurait sans doute ouvert des questions vertigineuses que l'entrée bureaucratique ne t'aurait peut-être pas permis de... auxquelles l'entrée bureaucratique ne t'aurait peut-être pas permis de répondre, mais ça m'aurait intéressé que tu te confrontes à cette question finalement. Est-ce que l'État modifie la lutte pour la division du travail entre créateurs ou non? Mais voilà, j'aurais trouvé ça intéressant, ultra constructiviste et stimulant. Là où on a des témoins, il me semble, du fait que ces questions ne sont pas complètement abordées, c'est par exemple la question des techniciens, qui apparaissent régulièrement dans ton analyse, mais qui ne sont pas particulièrement structurants de ta réflexion. À un moment, tu proposes un super encadré qui s'appelle « Les techniciens sont-ils des artistes ?» Et là, c'est super intéressant, c'est très bien documenté. Mais en fait, on a l'impression que ça ne vient jamais alimenter ta problématique d'ensemble. Et ça vient jamais interroger la place des administrations dans ce jeu de reconnaissance ou d'oubli de la part des uns et des autres dans la création artistique. Et un autre témoin, il me semble, du fait que ça aurait pu être encore plus interrogé comme question, c'est le fait que assez régulièrement, mais simplement pour des raisons de relâchement de l'écriture, pour pas utiliser tout le temps le même terme d'artiste, il t'arrive d'utiliser le terme de création comme synonyme de monde artistique, etc. Or, on perçoit bien que c'est un effet rhétorique, mais de fait, on a un certain nombre de cas où ce sont pas du tout des créateurs qui t'intéressent. Notamment, y a plein de comédiens. Il y a beaucoup de tes enquêtés et beaucoup de tes qui sont eux-mêmes comédiens ou qui travaillent avec des comédiens. Et là, on peut pas vraiment dire que ce sont des créateurs. Ce sont des exécutants, mais qui sont reconnus comme des artistes quand même. Donc, on peut se poser la même question avec finalement l'éclairagiste. Et on peut se poser et j'imagine qu'il y a des cas, les costumiers par exemple. Est-ce que sur les costumiers, on n'est pas au frottement? Est-ce que Pôle Emploi intervient ou pas dans le et ça m'intéresse je te pose pas cette question pour dire que tu aurais pu faire mieux. Je te pose cette question parce que ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de ce que tu aurais pu faire finalement de cette référence. Deuxième référence que tu aurais pas eu le temps de mobiliser parce que je crois que ça a été publié ultérieurement, mais je serais curieux de savoir si c'est quelque chose que tu connais, c'est le travail de Julia Mency-Thierry. Bon, ça ne te dit rien, donc je vais te la présenter très rapidement. En gros, c'est une anthropologue qui, elle, s'est intéressée au monde de la mode. Et dans une perspective assez proche de celle de Bernard Friot, c'est-à-dire elle a regardé de manière anthropologique ce qui se passe dans le monde de la mode, mais en se posant la question de la place de l'exploitation, de la place de la création de valeur aussi dans les activités productives, et puis les trajectoires des individus qui évoluent dans ces univers. Et là où c'est pas complètement problématique, l'absence, et puis de fait tu pouvais pas, c'est que vos analyses sont très largement convergentes, notamment de ce que l'un de tes enquêtés appelle l'effet Cendrillon. C'est quoi l'effet Cendrillon? C'est vous êtes dans un palace de luxe parce que vous êtes invité par le Festival de Cannes, mais vous devez manger à McDo à midi parce que vous n'avez pas assez d'argent. Et puis, une fois que vous rentrez en TGV à Paris, vous rentrez dans vos 15 mètres carrés parce qu'en fait, vous êtes à Cannes, mais vous êtes érémiste. Et c'est exactement la même chose dans le monde de la mode. C'est-à-dire qu'on va aller à Bruxelles dans un palace, mais on n'a pas de quoi se payer à manger à midi, ni de bus pour rentrer le soir. Elle va plus loin là-dedans, mais aussi parce que c'est son objet et que ce n'est pas le tien, hein. C'est que elle va montrer que ça, c'est un moteur du monde de la mode en tant que système économique. Et ça me semble important en fait de l'avoir à l'esprit parce que parfois quand on écoute tes enquêtés et tu prends jamais parti, mais tu leur laisses le dire quand même sans jamais les remettre en cause, on a l'impression d'un milieu qui serait structurellement déficitaire, en crise. Et en fait, est-ce que c'est vraiment évident? Parce que l'approche de l'intérêt de Mency-Thierry, c'est de montrer que, en fait, c'est pas du tout la faute à pas de chance, si 20% des membres du champ empochent 80% des revenus. Et elle, elle va plus loin, parce que dans le cas de la mode, il y a des multinationales. Mais c'est aussi plus ou moins le cas dans ton secteur. TF1, Endemol, etc., c'est des gens qui participent aussi à l'objet à étudier. Et sa thèse, hein, c'est que c'est un système économique d'exploitation qui permet cela, un système de domination qui permet cette répartition. Et en gros, elle propose deux hypothèses assez intéressantes pour expliquer cela. D'abord, elle dit la lutte collective, quand bien même elle existerait, elle ne peut pas être légitime, la lutte collective pour l'égalité de la répartition. Elle ne peut pas être légitime dans le monde de la mode, puisque le mythe fondateur, c'est celui du jaillissement du sujet et du désir qu'il crée chez autrui. Et puis, elle rajoute, mais ça reste discutable, parce que dans ton cas, il y a des mobilisations, des intermittents, etc. Donc, ça reste discutable. Et elle rajoute aussi quelque chose qui va beaucoup plus loin, mais qui est assez intéressant politiquement, c'est, elle dit, le projet politique néolibéral d'assujettissement par la précarisation et l'individualisation a atteint tous ses objectifs dans le monde de la mode. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu es plutôt très prudent, question néolibérale, etc. Mais aussi parce que ton approche socio-historique te permet de dire que c'est pas tout neuf. Mais maintenant que c'est publié et que tu as un boulot, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que, voilà, que dire du projet néolibéral et de dans ton cas. Voilà, donc ça m'aurait intéressé de t'entendre là-dessus, si tu as des éléments. Voilà, si tu avais mis du Marx... Si tu avais ajouté du Marx à ton Bourdieu, qu'est-ce que ça permettrait de dire ? Maintenant, quelques questions en vrac. D'abord, comme dans un débat télévisé, j'aimerais que tu traites la question suivante. Une question que tu n'as pas osé résoudre, c'est pourquoi aider les artistes ? Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton avis personnel, hein, mais si tu devais expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles, justement, les dispositifs que tu étudies survivent à l'heure néolibérale, ça m'intéresserait. Parce qu'un truc, ce qui m'a frappé, c'est que tu proposes une approche très bourdieusienne de ton objet. Donc voilà, il y a des champs de force, etc. Il y a des acteurs, il y a des champs. Et dans le même temps, tu expliques que le soutien en coulisses des cadres administratifs à cette incongruité bureaucratique, c'est le fait qu'ils ont un fils ou une fille qui est intermittent ou intermittente, ou une compagne ou un conjoint intermittent. Et j'ai été surpris que tu n'en tires pas des fils bourdieusiens, justement. Que tu restes un peu sur le côté matériel en disant ben, ils ne veulent pas affamer leurs enfants ou leurs conjoints. Alors qu'il me semble qu'au-delà de la question de la parenté, ça pose quand même une question de la place symbolique que va occuper l'art dans les classes dominantes. Et puis du coup, le scrupule qu'ils peuvent avoir à fragiliser un secteur, à fragiliser ses membres, au-delà de, voilà, du rapport direct de filiation. Du coup, est-ce que c'est... mais peut-être que tu n'as pas envie de te poser la question dans ces termes-là, mais est-ce que ce n'est pas autant une question d'idéologie que de lien matériel de proximité avec les gens de ce milieu ? Ça peut être les deux, par ailleurs. Autre question qui me semble importante et qui ne fait pas partie de ton objet, mais sur laquelle j'aimerais t'entendre, c'est à quoi bon ? C'est un peu le versant de la question précédente, franchement, à quoi bon à quoi bon les aider, quoi. Non, mais moi, je trouve ça assez saisissant de voir ce secteur qui clame ne rien demander, qui clame, encore une fois, qui demande qu'on laisse faire ses petites choses dans son coin et qui, dans le même temps, est ultra structuré pour aller frapper à telle ou telle porte pour bénéficier de la commande publique. Et un truc qui m'a frappé dans le texte, c'est que tu répètes régulièrement et de façon tout à fait convaincante que Pôle emploi n'est pas jugé très utile par les membres du spectacle. Pôle emploi serait inutile. Et dans le même temps, tu nous dis que des gens en viennent à faire des fausses déclarations de domicile pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi spectacle. Preuve du fait que Pôle emploi serait peut-être un peu utile. Et donc, il y a peut-être là un paradoxe à expliciter, c'est que peut-être qu'au-delà du discours, Pôle emploi sert peut-être à quelque chose. Mais à toi de nous dire à quoi, s'il te plaît. C'est parfait, il me reste 50 secondes pour la fin de mes questions. Oui, la question du financement. Quelque chose qui m'a semblé moins traité, mais encore une fois, parce que ce n'était pas dans mon objet, c'est la question des canaux de financement. Parce que toi, ta problématique, c'est l'intervention de l'État, de la bureaucratie. Mais finalement, si on y pense, en termes de sources et de ressources économiques, il y a deux acteurs sur lesquels l'État peut se défausser, avoir une politique très volontariste tout en se défaussant. C'est ben, d'une part, ça tu le dis assez régulièrement, mais c'est l'assurance chômage. L'État pourrait avoir une politique très très volontariste en matière de soutien à la culture en se défaussant sur les partenaires sociaux. Parce que rappelons que ce n'est pas le budget de l'État et que ça range beaucoup l'État de se défausser puisqu'il il le fait par exemple pour Pôle emploi. Pôle emploi est en grande majorité financé par nous en fait et pas par l'impôt. Et puis il y a le Fonds social européen aussi que tu connais bien par ailleurs. Voilà, dans quelle mesure est-ce que... Et c'est intéressant le Fonds social européen parce que c'est beaucoup d'argent qui ne provient pas de l'État, mais dont l'orientation, enfin, sur l'orientation duquel l'État a la main. Parce que ce sont des acteurs bureaucratiques publics français qui ont la main sur l'orientation. Et donc, ils pourraient, en fait, détourner complètement le Fonds social européen pour faire apparaître une politique volontariste. Voilà. Et dernière question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre, hein, c'est est-ce que... Sur quoi porte ton travail, mon cher? Non, sur quoi est-ce que tu te sens, maintenant que c'est fini, de dire des choses? Est-ce que c'est seulement sur les politiques culturelles? Est-ce que c'est seulement sur les politiques de l'emploi? Est-ce que c'est sur l'État dans son ensemble? Et je sais que tu as plein de choses à dire sur le sujet, et du coup, j'aimerais que tu reviennes rapidement hein, sur les pistes de montée en généralité que te permet cette enquête sur le gouvernement d'un particularisme, comme tu le dis. Parce que là encore, hein, pour des doctorants qui liraient ton livre ou qui écouteraient cette vidéo, je trouve que tu montres bien le modèle d'un terrain circonscrit qui pourrait passer pour un petit objet, que tu traites de manière exhaustive et qui permet en fait de dire des choses beaucoup plus générales sans que ce soit des prises de risque majeures. Voilà, donc vas-y, éclaire-nous mon cher, s'il te plaît. Voilà, désolé, j'ai dépassé du...
Non, merci beaucoup pour cette lecture riche et précise et parfait respect. Je laisse tout de suite la parole à Luc pour répondre, enfin, tenter de répondre des skis, des pistes, en tout cas.
Intransigeant.
Merci, bah, je commence par m'associer à Jean-Marie pour remercier toute l'équipe du séminaire Lire les sciences sociales de m'avoir invité. Ça fait plaisir de revenir à Pouchet après pas mal d'années... d'absence, c'est là où j'ai soutenu ma thèse, où j'ai fini ma thèse aussi, donc je suis très content de revenir ici, donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais merci à vous de me donner l'occasion aussi de discuter avec Jean-Marie. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter plein de fois sur ces sujets-là, mais souvent de façon un peu parcellaire ou circonscrite, et là ça donne l'occasion...
Dans des cafés,
oui. Dans des cafés, mais ça donne l'occasion effectivement d'avoir une discussion plus ample. Donc merci beaucoup pour cette discussion très ample. Assez original aussi de mon travail, qui m'a permis de prendre plus de passes de notes qu'à ma soutenance de thèse, donc merci beaucoup. Alors, je sais, juste peut-être un mot pour commencer, juste, enfin, c'est pas pour du tout refaire la jeunesse, parce que c'est pas le plus intéressant non plus, mais pour dire qu'en fait, à la base, cet objet-là ou cette question-là, elle vient vraiment d'une préoccupation personnelle, d'ailleurs, dans ma thèse, je cite, je ne dis pas parce qu'il est là, mais je cite Gérard Boget qui disait dans un article que tous les choix d'objets sont d'une certaine façon autobiographiques. Pour le coup, c'est vraiment vrai parce que effectivement, dans ma famille, enfin mon père en l'occurrence, a monté des spectacles avec des artistes RMistes, etc. Je dis pas ça pour voilà pour raconter ma vie, mais juste pour dire que effectivement, ça avait une vraie résonance personnelle et mon intérêt en fait est né pas dans les livres de sociologie pour cette question-là, mais vraiment initialement, elle est née d'une préoccupation personnelle. Et en fait. En gros, j'ai compris que je pouvais un peu convertir cette préoccupation-là en intérêt de recherche scientifique, disons noble, en tombant sur un article de Vincent Dubois, vraiment, j'étais en DEUG, donc ça fait un moment, ou en licence, qui s'appelait, j'ai le titre, « Social, culture, les limites d'une frontière » sur la mise en musée du graffiti, d'un vieil article de 1994 dans la Revue française des affaires sociales, et que j'avais trouvé particulièrement éclairant parce que, en fait, je trouvais en fait dans cet article-là tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit ce qui relève de l'art, du social, et qu'est-ce justement qui se passe quand on étudie des objets qui sont au carrefour de différents univers sociaux, de différents champs sociaux. Donc vraiment, je me suis dit effectivement, c'est ça qui m'intéresse, puisque ça fait directement écho aussi personnellement à des questions qui me préoccupent. La raison qui m'a conduit effectivement notamment à travailler avec Vincent Dubois par la suite et puis avec Laurent Jean-Pierre que j'ai connu plus tard, notamment dans le cadre de l'ANR Impact où Wenceslas était aussi, donc sur les intermédiaires culturels. Et donc, ce que je dois dire aussi, c'est qu'initialement, en master, en fait, donc j'ai commencé à travailler sur cette question en master, vraiment, c'était une enquête ethnographique sur une agence de spectacle de la NPE, c'était juste avant la fusion. Et en fait, la question qui m'intéressait, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais c'était vraiment de savoir, en fait, en collant avec les thèmes de l'ANR, de savoir, en fait, comment est-ce que la NPE, en fait, est un intermédiaire du marché du travail artistique. Et c'était une question qui était pas si évidente à traiter, puisqu'en fait, la réponse à laquelle on arrive assez vite, c'est que non. Enfin, disons que si on regarde factuellement, de fait, le rôle que jouent les agences publiques d'emploi dans l'accès à l'emploi artistique est extrêmement minoritaire. Il n'y a pas de chiffre très précis là-dessus, mais en gros, autour de 2 à 3%, ce qui est très très marginal. Et de surcroît, et c'est là où ça devient intéressant, là où elle joue un rôle, c'est sur le segment le plus dévalorisé des mondes de l'art, qui est notamment le marché des figurants. Donc c'est des artistes, entre guillemets, souvent qualifiés un peu de sans qualité, donc des gens qui ne disent pas un mot ou seulement, qui ne disent pas une phrase ou seulement un ou deux mots sur un tournage. Et donc, sur ce segment-là, effectivement, la NPE Spectacle a pu jouer, effectivement, joue un rôle non négligeable, surtout à Paris, dans le recrutement de gros bataillons pour jouer des foules lors d'une manifestation ou autre. Enfin bref, voilà, donc des gens qui ne parlent pas. Donc du coup, alors cette question de savoir en fait quel était son rôle, donc ça m'a pas mal préoccupé. Et je me suis dit, mais mince, en fait, je travaille sur un objet qui ne sert à rien, tout le monde trouve que ça ne sert à rien, etc. Et en fait, plus ça servait à rien, plus ça m'intéressait. C'est-à-dire, plus les gens me disaient, mais vraiment... Vraiment, c'est... Alors, à la fois parmi les enquêtés qui me disaient « Vraiment, c'est des nazes et tout, enfin, ils font rien pour nous, ils comprennent rien, etc. » Je caricature un peu, mais c'était quand même assez ça. Donc, les entretiens, parfois, étaient assez brefs avec les artistes. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ils disaient « Elle voulait parler de quoi ?» Moi, je m'intéresse à la NPE Spectacle, etc. » Ils disaient « Ah, bah, ça va aller vite, parce que c'est vraiment, ça sert à rien, en fait. » Et en fait, c'est en tombant... Alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont conduit à continuer. Le premier, c'est... J'étais tombé sur, là aussi je ne le dis pas parce que vous êtes là, mais j'étais tombé sur la thèse de Xavier Zunigo sur l'émission locale de Jeunes, dont je me sens en fait assez proche en termes de traitement de l'objet, qui disait quelque chose du type, alors je n'ai plus exactement la formule dans son introduction, mais quelque chose du type, c'est pas parce qu'en fait les gens disent que ça ne sert à rien que ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, même les choses apparemment inutiles produisent des effets sociaux qui peuvent être extrêmement forts. Et donc je me dis, et là en fait, ça m'a d'une certaine façon en fait un peu décomplexé, parce que je me suis dit, mais en fait, ok, ils ont un rôle marginal dans les mondes de l'art, manifestement et très clairement, et en même temps, il y a quand même... des milliers d'artistes qui quotidiennement sont reçus dans des agences Pôle emploi qui ont affaire à des guichetiers qui doivent faire des choses, prouver qu'ils cherchent du boulot, prouver qu'ils se complaisent pas entre guillemets dans l'assurance chômage ou dans l'assistance, etc. Et donc en fait cette rencontre elle existe, elle concerne quand même des gens, et en fait le chômage, la NPE, c'est une réalité qui est en fait très très présente en fait dans les mondes de l'art, parce qu'en fait c'est, je vais pas dire que c'est le... Il y a une enquêtée qui m'avait dit, effectivement, le RMI, c'est le premier mécène des artistes parisiens. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a bien une institution qui est connue dans les mondes de l'art, alors, souvent défavorablement, c'est quand même Pôle emploi, le RSA, etc. Les services sociaux qui gèrent le RSA, etc. Donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant. Et en fait, si on regarde non plus vraiment, si on se pose non plus la question de savoir, mais est-ce que c'est vraiment un intermédiaire des marchés de travail artistique, mais plutôt, en fait, sous un angle de sociologie de l'action publique, c'est-à-dire... Pourquoi et comment, en fait, une institution qu'on dit très standardisée, très bureaucratique, etc., comment, en fait, pourquoi et comment ce type d'institution en vient à s'adapter à des usagers qu'elle pense elle-même et qu'elle présente elle-même comme étant extrêmement spécifiques, singuliers, etc. Et donc, en fait, j'ai retourné un peu l'angle en me disant, effectivement, peut-être que ma question, c'est au moins autant une question de sociologie de l'action publique qu'une sociologie, on pourrait dire, économique des intermédiaires, comme je l'avais pensé initialement. Et en fait, c'est un peu là-dedans que je me suis pensé, que je me suis lancé, puisque effectivement, le cadrage de mon travail, en tout cas, c'est comme ça que je le pense, c'est comme ça qu'il a été en partie reçu, c'est vraiment une sociologie de l'action publique. Effectivement, hein, on ne va pas être mensonger, hein, tu l'as dit, effectivement, assez proche, je me sens assez proche de la perspective qu'a développée Vincent Dubois, notamment ses travaux à la fois théoriques et empiriques sur l'action publique, on pourrait dire... notamment adapter des travaux de Bourdieu ou repris des travaux ou inspiré des travaux de Bourdieu sur la production de la politique du logement ou sur ses conférences au Collège de France sur l'État, mais effectivement une approche que je qualifie moi-même de relationnel, c'est-à-dire en fait, je souscris complètement à cette idée-là qui est encore aujourd'hui quand même pas, alors plus qu'avant, mais pas complètement acceptée, disons, dans ce qu'on appelle communément l'analyse des politiques publiques en sciences politiques, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, pour comprendre pleinement une politique publique, ses orientations, ses effets aussi, on ne peut pas passer à côté de l'analyse prises de position des acteurs, mais aussi surtout des positions sur lesquelles, des positions sociales et institutionnelles qui les fondent. Donc effectivement, ça me paraît être alors c'est un postulat qui est assez régulièrement affirmé dans les travaux d'action publique aujourd'hui, mais qui est, je trouve, pas du tout systématiquement mis en évidence, c'est-à-dire effectivement de l'analyse des discours, etc., des producteurs et de ceux qui mettent en œuvre l'action publique, mais aussi inscrire ça dans les trajectoires sociales, les trajectoires biographiques et aussi des positions institutionnelles qui reflètent ces orientations. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai conçu mon travail, en tout cas mon travail de thèse, de sociologie, on pourrait dire relationnel de l'action publique. Et là, donc, ça me permet aussi de commencer un petit peu à répondre à une de tes questions sur mon cadre théorique, sur le fait que, effectivement, je pense qu'en fait, le principal croisement que j'opère avec la sociologie, relationnelle de l'action publique, c'est la sociologie, en fait, des professions. Effectivement, j'ai été pas mal inspiré par les travaux d'Andrew Abbott, d'Eliot Fritzon, notamment, sur les luttes de territoire professionnel. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ma thèse. Effectivement, puisque... le fait d'étudier effectivement à la fois des agents et des usagers qui trouvent jamais vraiment leur place, c'est-à-dire qui sont jamais vraiment complètement spécialisés ou jamais vraiment complètement reconnus comme artistes, tout en étant quand même un peu spécialisés. Enfin, en gros, des agents, des institutions qui peinent à trouver leur place, qui sont pas complètement dans le domaine culturel, mais qui sont pas vraiment non plus complètement dans le domaine du social, enfin, etc. Donc en fait, c'est une lutte de frontières permanentes qui se joue à la fois au niveau institutionnel, au niveau professionnel, donc je ne reviens pas sur ce que tu as dit, mais effectivement, des agents qui essayent de faire valoir leur expertise, alors même qu'elle leur est très régulièrement déniée par les usagers, mais aussi des usagers dont les agents disent bah, « c'est pas toujours des vrais artistes », etc. Donc, en fait, des gens qui, à la fois des institutions et des agents qui peinent à trouver leur place, qui ne savent pas trop exactement bien où se situer, dans quel espace marchand, bureaucratique, social, culturel, on ne sait pas trop où ils sont. Ça, c'est, je pense que c'est l'une des clés de lecture. En tout cas, c'est un peu comme ça que j'aimerais que ma thèse soit lue, comme effectivement une lutte de frontières permanente, de savoir comment, où se placer, où se définir, où se positionner. Et voilà. Donc effectivement, la sociologie des professions, je pense que c'est l'un des principaux croisements que je fais dans ma thèse avec la sociologie de l'action publique. Voilà. En gros, si je devais résumer un petit peu la thèse de la thèse, on dit ça comme ça parfois, c'est effectivement...
C'est un peu tard.
C'est un peu tard. C'est effectivement de dire que, en fait, si l'action publique s'adapte en fait à une catégorie particulière d'usagers qui sont les artistes, en fait, c'est pour mieux les adapter en retour. C'est quand même ça le point de ma démonstration, c'est de dire qu'effectivement... L'essentiel des politiques publiques, alors que ce soit par Pôle emploi spectacle ou les prestations disons, de suivi artiste du RMI, si elles sont mises en œuvre, développées, approfondies, c'est notamment pour permettre effectivement de cadrer les aspirations professionnelles des artistes, dont les institutions et les agents considèrent quand même assez régulièrement qu'elle relève d'une forme d'onirisme un peu socio-professionnel. Ça, c'est quand même un point majeur, c'est-à-dire que effectivement, on considère quand même qu'il y a beaucoup de gens dans ces univers professionnels qui n'accéderont pas à la notoriété, mais qui, même en deçà de ça, n'arriveront jamais vraiment à en vivre. Et que donc, il faut leur faire accepter en fait, assez rapidement que en fait, ce ne sera pas possible. Et précisément, pour leur faire accepter que ce ne sera pas possible, qui mieux que effectivement des agents qui ont quand même une compétence un peu spécialisée pour essayer d'être crédible auprès de cette population-là. Alors, et là j'en viens à ce qu'il dit, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'une des caractéristiques quand même de ces usagers artistes, de ces artistes précaires ou de ces précaires artistes, c'est quand même que quand bien même ils sont dire, financièrement pauvres, enfin, globalement hein, quand même. Hein, il y a une étude hein, sur un centre de pays qui montrait qu'en fait, en gros, il y a près entre un tiers et la moitié des artistes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, hein, globalement, donc, pour donner un ordre d'idée, un travail de Abing. Mais en fait, quand bien même ils sont pauvres, ils ont quand même des ressources socioculturelles qui leur permettent, sinon de renverser la domination, on pourrait dire bureaucratique, qui s'exerce traditionnellement sur les usagers de l'aide sociale, au moins, alors sinon de la renverser, au moins de la compenser pour partie. Donc effectivement, ils ont déjà, effectivement, donc ces compétences, elles se traduisent notamment par un niveau de diplôme beaucoup plus élevé, des ressources, donc ce sont des gens qui sont diplômés, à la fois diplômés d'école hein, spécialisée artistique, mais aussi diplômés de l'enseignement supérieur, beaucoup plus fréquemment que les autres chômeurs et allocataires du RSA. Donc effectivement, ça fournit des ressources, alors très matérielles, sur comment effectivement remplir les papiers, faire les bonnes démarches, etc. Donc bon, je renvoie au travail de Yasmine Ciblot là-dessus, hein, sur la paperasse face au guichetier, etc. Mais elle permet aussi, d'un point de vue dans la relation, on pourrait dire, de guichet, de de compenser, voire de renverser l'ordre hiérarchique, c'est-à-dire de dire aux agents, qui êtes-vous, en fait, pour me dire quoi faire ? Alors, non pas seulement pour me dire ce qui est un bon artiste ou ce qui n'est pas un bon artiste, ce qui n'est pas forcément le propos hein, de la relation entre ces deux parties prenantes, mais de dire, effectivement, qui êtes-vous pour me dire qu'il faut que je vende mes photos 20% de ce que je les vends habituellement pour apparaître comme un professionnel ? Qui êtes-vous pour me dire que je dois me former au travail de communication pour mieux communiquer sur mes sculptures ? Qui êtes-vous pour me dire qu'il faut que je sache vraiment lire la musique précisément si je veux vivre en tant que guitariste professionnel, par exemple ? Prendre des exemples un peu différents, mais effectivement, ces ressources socioculturelles, et on le voit très vite dans l'interaction, sont mobilisées effectivement par les usagers pour dire effectivement, attendez, on est face à face, certes, parce que l'institution et les règles d'indemnisation, d'assurance chômage, d'assistance, etc., m'imposent d'être face à vous, mais c'est pas pour autant que je vais m'en laisser compter, enfin pour le dire rapidement. Effectivement, c'est une situation qui me semble relativement rare, en tout cas, enfin, et c'est ça aussi qui m'a intéressé, c'est que dans les travaux sur, on pourrait dire, la street level bureaucratie, donc les travaux français sur la street level bureaucratie, donc je pense au travail de Yasmine Ciblot, d'Alexis Spire ou même de Vincent Dubois, c'est quand même globalement des usagers plutôt dépourvus, de ressources socio-économiques, donc des étrangers candidats donc qui font une demande d'asile, des bénéficiaires de minimaux de la CAF. Des gens de quartier populaire, etc. Donc c'est plutôt des gens qui sont plutôt peu dotés, on va dire, socioculturellement. Et là, effectivement, il me semble qu'on a un cas, sinon à l'extrême opposé, en tout cas, qui permet de nuancer, de dire bah, comment ça se passe qu'en fait, quand les usagers sont plus diplômés, qu'ils ont, pour certains, une estime d'eux-mêmes qui est pas nulle, pour faire un euphémisme, et qui disent aux agents, bah alors, voilà, moi je ferai pas ce que vous me dites, ou alors pas complètement, ou alors je ferai ce que j'ai envie de faire moi, mais vous m'imposerez pas des choses que j'ai pas nécessairement envie de faire. Et ça me paraissait être important pour justement analyser de façon un peu nuancée l'exercice différencié de la domination bureaucratique en disant, bah, en fait, la bureaucratie, c'est pas juste une machine qui s'abat sur des dominés et qui les broie de façon. Je caricature un peu, mais en tout cas qui leur impose des normes de comportement de façon complètement univoque. Dans certains cas, il y a des usagers qui ont les moyens effectivement de compenser cette asymétrie informationnelle, cette asymétrie. Et il me semble que ce cas-là n'est pas complètement exceptionnel. Déjà parce que d'ailleurs c'est un point qui n'est pas un hasard. Hein. Les deux seuls réseaux spécialisés qui ont existé à la NPE, c'était le réseau spectacle et le réseau cadre. Il y a plusieurs façons d'expliquer ça. Il n'y a pas vraiment de travaux sur le réseau cadre, à part il y a une thèse de Sophie Pochic un peu sur le chômage des cadres, mais elle ne traite pas de façon très très longue ce cadre-là. Et ça permet de revenir à une autre question que tu as posée, c'est de savoir en fait pourquoi on se spécialise sur les artistes. Et effectivement, pourquoi je fais le parallèle avec le réseau cadre, c'est qu'effectivement, on peut dire effectivement c'est des marchés du travail très spéciaux, effectivement, où il y a des acteurs très spécifiques, des experts, où les gens sont compétents, diplômés, etc. Donc effectivement, c'est une matière à traiter qui est plus complexe. C'est l'argument qui est avancé, c'est pas mon explication à moi, mais c'est une matière à traiter qui est plus complexe et donc il faut des agents spécialisés. Mais en fait, et de ce point de vue-là, la genèse des prestations RMI artistes est assez éclairante. C'est pas que ça qui explique en fait la spécialisation de ces politiques, de ces dispositifs. C'est aussi, par exemple, que il a fallu en fait créer des dispositifs spécifiques avec des experts, enfin en tout cas des gens qui se revendiquent un peu comme experts, qui sont formés à cette expertise, à cette connaissance, justement pour éviter que les artistes ne parviennent en fait à compenser de façon trop forte en fait la domination qui s'exerce sur eux, c'est-à-dire en fait à mystifier un peu les bureaucrates. Par exemple, je prends un exemple concret qui exemplifiera. Quand je suis rentré, en fait, quand j'ai commencé à étudier ce fameux dispositif RMI Artiste, je suis rentré par le haut, on pourrait dire, c'est-à-dire j'ai commencé à interroger des élus. Donc des élus, des adjoints, donc à l'époque c'était Bertrand Delanoë, donc des adjoints de Bertrand Delanoë, etc., qui me disaient, voilà, nous, Paris Ville Culturelle, en fait, la raison pour laquelle on développe des prestations d'accompagnement spécifiques pour les artistes, c'est parce qu'effectivement, il est de notre devoir, puissance publique, de s'intéresser aux artistes. La droite gouvernementale casse en permanence les solidarités, notamment à travers la casse du régime de l'intermittence, le fait qu'on durcit les règles d'indemnisation, etc. Donc il est de notre devoir, nous, collectivités locales de gauche, de venir pallier cette casse par la droite gouvernementale des solidarités nationales. Alors c'est une belle histoire à laquelle j'ai longtemps cru, voilà, c'est effectivement municipalité de gauche, etc., on s'engage, donc on développe des dispositifs pour venir en fait en aide aux artistes et leur permettre de leur fournir un revenu en fait en attendant que ça marche pour eux, en tout cas pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'était l'histoire qu'on m'a racontée en fait au départ quand je suis rentré par les élus, les cabinets, etc. Et en fait, en faisant, et c'est là que le travail d'archive m'a été utile, en faisant ce travail d'archive, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça l'histoire l'histoire originelle. Et c'est même peut-être, d'ailleurs, ça qui est dingue, c'est peut-être l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout en fait une volonté politique qui date des années 2000, avec l'accession effectivement de la gauche socialiste au pouvoir. Ces dispositifs, en fait, ils remontent au début en fait du RMI, donc fin des années 80. Et la raison pour laquelle on les a mis en place, c'est pas non plus du tout venir en aide aux artistes pour effectivement faire en sorte qu'en attendant de devenir effectivement de subvenir à leurs besoins, ils puissent être aidés. C'est pas du tout ça. C'est initialement effectivement des assistantes sociales qui, voyant arriver notamment à Paris un certain nombre de gens qui se définissaient comme artistes et qui disaient voilà, moi j'ai été cadre pendant comptable, ou voilà, où j'ai exercé un métier, on va dire, qui rentre dans les canons de l'emploi classique pendant 15 ans. J'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de devenir musicien parce que j'ai toujours voulu rêver de la musique, et donc voilà, je me sers du RMI effectivement pour pouvoir effectivement commencer à trouver effectivement des concerts, etc. Donc en fait, des gens qui arrivaient, qui tranchaient en fait avec le public classique de l'aide sociale, donc des gens plutôt peu diplômés, plutôt désocialisés, etc. Et là, elles se retrouvaient face à un nouveau public. Beaucoup plus diplômés, beaucoup plus indépendants aussi d'un point de vue professionnel, donc des gens qui avaient par ailleurs, qui pouvaient aussi avoir des réseaux, etc., et qui leur disaient de toute façon, voilà, en gros, vous n'êtes pas du tout les mieux placés pour m'accompagner, donc voilà, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, pour le dire de façon spécifique. Donc en fait, ce n'est pas du tout les élus qui ont impulsé ça, c'est les assistants sociaux confrontés face à un public qui les mettait en fait régulièrement en défaut. Il y a des extraits assez savoureux dans les archives là-dessus, hein. Les mettant régulièrement en défaut en leur disant en gros circuler, il n'y a rien à voir, ont demandé à la collectivité, donc à la mairie de Paris, de en fait d'externaliser cette prise en charge en disant effectivement bah écoutez, faites-les, en gros nous ils veulent pas rendre des comptes à nous les assistantes sociales, faites-les prendre en charge par des prestataires spécialisés, donc en gros des artistes reconvertis dans la formation, qui pourront peut-être leur faire entendre raison et leur faire comprendre que céramiste en fait c'est pas un métier, et que en fait pour sortir du RMI, il va falloir peut-être faire autre chose. Donc effectivement, non seulement on voit que l'action publique n'est pas impulsée d'en haut, mais plutôt que l'impulsion vient plutôt vraiment du terrain, on peut dire du guichet, mais en plus de ça, l'ambition initiale, c'est pas venir en aide aux artistes pour qu'ils puissent vivre de leur activité, c'est plutôt leur faire accepter, de façon plus ou moins douce, plus ou moins contraignante, leur faire accepter que pour beaucoup d'entre eux, il va falloir, si ce n'est renoncer à leur vocation, à tout le moins la combiner avec une activité alimentaire. Hein, donc on voit que, voilà, de ces deux points de vue-là, il me semblait que le recours à l'histoire et aux archives était un instrument de rupture assez utile pour montrer, effectivement, que Bah, en fait, quand on va voir dans la complexité de l'action publique, la fabrication, on pourrait dire, de l'action publique, ça permet aussi de rompre un peu le discours un peu volontariste des élites politiques qui se donnent bien souvent à voir, et dans lequel certains travaux d'analyse des politiques publiques sont longtemps un peu tombés, c'est-à-dire de prendre en fait les volontés des décideurs pour les raisons réelles, on pourrait dire, de la mise en place de l'action publique. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte, mais en tout cas, ça mérite d'être nuancé, et dans mon cas, ça a été assez parlant. Je reviens un petit peu à tes questions, parce que je sens que sinon je vais faire trop long, il me reste...
Peut-être 10 minutes.
10 minutes, ok. Alors, j'ai commencé un peu à répondre sur le cadre théorique, alors qui effectivement est assez hétérogène. Donc, je l'ai dit, sur le croisement avec la sociologie des professions, et sur l'approche relationnelle de l'action publique, on pourrait dire telle que la mise en œuvre Bourdieu dans ses travaux sur l'État, mais aussi Vincent Dubois par la suite. Effectivement, je crois vraiment, l'idée de dire qu'en fait l'action publique c'est avant tout des actes d'État, je pense que c'est vraiment un truc qui me parle, c'est des actes d'État incarnés par des institutions et des individus porteurs évidemment de dispositions professionnelles et occupant des positions institutionnelles spécifiques. Voilà, donc ça c'était vraiment le parti pris théorique de la thèse, alors, qui n'est pas révolutionnaire aujourd'hui, mais en tout cas qui était de l'affirmer et surtout de le démontrer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En essayant de tenir effectivement à chaque fois l'analyse de l'institutionnalisation de cette action publique. Donc, je ne reviens pas sur ta lecture, sur ton découpage chronologique, mais qui est assez juste, globalement, années 80, particularisme, puis investissement public, puis lutte contre l'exclusion, puis reprise en main par les élus locaux, et puis ensuite, effectivement, beaucoup plus récemment, lutte contre la fraude, c'est tout à fait ça. Mais effectivement, donc tenir ensemble une analyse de l'institutionnalisation de cette action publique, comment en fait des institutions tiennent, ce qui n'est pas du tout évident. Et dans le livre, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'en fait, cette spécialisation, cette différenciation sectorielle de l'action publique, elle n'est pas du tout évidente au sein même des institutions. C'est-à-dire que souvent, il y a des acteurs qui sont obligés de batailler pour faire valoir que si, il faut des agences spécialisées spectacle, si, il faut des prestations spécifiques pour les artistes avec... Un panel d'arguments que tu as exposé sur lesquels je ne reviens pas, mais effectivement c'est une lutte assez quotidienne. Et d'ailleurs l'un des exemples plus manifestes de cette lutte, c'est qu'aujourd'hui la plupart des agences spécialisées de la NPE, sauf à Paris et à Lyon, ont été supprimées sous l'effet, alors juste une toute petite parenthèse là-dessus qui est éclairante, sous l'effet de la fusion NPE-ACEDIC, donc qui a abouti à Pôle emploi en 2009, puisqu'on avait quand même d'un côté, c'est là qu'effectivement je pense que le cas des artistes et éclairants pour saisir, par exemple, typiquement, les enjeux de la fusion ANPE-ACEDIC, que tu connais bien. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on avait quand même, c'est ça qui est assez dingue, des gens donc, de l'ANPE qui disaient, en fait, nous, notre but, c'est de faire en sorte que les gens trouvent du travail dans le secteur artistique, donc, ce qui signifie dans ce secteur-là, accèdent au régime de l'intermittence. C'est-à-dire, en fait, comme on dit, fassent leurs heures pour pouvoir se maintenir, etc. Et on avait quand même de l'autre côté des gens de l'assurance chômage qui disaient, notre objectif, c'est jamais assumé comme ça, c'est qu'il y ait moins d'intermittents. Alors je passe sur tout le débat de savoir combien coûte effectivement le régime de l'intermittence, etc., qui est assez documenté, je renvoie aux travaux de Mathieu Grégoire notamment, mais en gros, on avait globalement des gens dans une logique d'assureur qui était l'ex-ACEDIC, qui était de dire, effectivement, nous, notre but, c'est plutôt qu'il y en ait le moins possible, et des gens de la NPE qui disaient, nous, en fait, on essaye de les y faire accéder. Donc, effectivement, des positions qui étaient quand même assez antagonistes, et ce qui a abouti, à travers une lutte institutionnelle dont que je documente dans le livre, en fait, à, sans grande surprise, une victoire de la logique d'assurance avec, progressivement, une diminution, puis quasiment une suppression en fait de ce réseau spécialisé d'antennes NPE spectacle qui était là pour aider un peu les intermittents, pour leur trouver du boulot, etc., pour les aider dans leur reconversion, etc. Donc je pourrais y revenir si ça vous intéresse, mais effectivement il me semble que là aussi c'est le pari du livre, c'est de dire effectivement, et je pense que tu l'as bien dit, c'est un cas qui est effectivement empiriquement relativement circonscrit, mais qui, de mon point de vue, permet de voir de manière plus nette, plus aiguë, on pourrait dire, ce qui se joue dans d'autres domaines de l'action publique ou à propos d'autres objets d'action publique. Typiquement, la question de la managérialisation à Pôle emploi que tu connais bien, parce que c'est ta thèse, hein, voilà, il me semble que là aussi, elle permet d'être, voilà, le cas des artistes permet de la voir de façon encore plus aiguë, puisque les antagonismes s'y jouent de manière encore plus forte. Tout ça pour dire que voilà, donc tenir ensemble les institutions, les rôles professionnels à travers l'analyse des agents, donc à quel point il faut se spécialiser, tout en respectant des règles organisationnelles qui sont quand même standardisées. Et puis, bien sûr, une analyse aussi du traitement ordinaire, c'est-à-dire comment, et c'est ce que je montre dans le dernier chapitre du bouquin, c'est comment, en fait, cette administration des vocations, elle peut être comprise donc administration au sens d'espace bureaucratique, mais aussi administration au sens d'administrer, c'est-à-dire comment, en fait, effectivement, on norme, on régule, on contraint éventuellement des aspirations, des horizons d'attente professionnelles. Comment on les circonscrit. Comment on fait accepter des gens qu'il faut prendre un travail alimentaire. Donc ce travail-là, hein, on décrète pas ça. Il y a tout un travail, donc ce que j'explique voilà dans le dernier chapitre, de mise à l'épreuve des projets professionnels au temps. On va pas dire aux gens non, c'est pas possible. Le RSA ou Pôle emploi impose que vous fassiez autre chose. On va leur dire bon, on se laisse quelques mois ou on se laisse un an et puis on verra en fait si ça marche. Et si ça marche pas, il faudra trouver une autre solution. Donc en fait, on expose, en fait, on met les gens à l'épreuve de leurs propres limites pour leur apprendre effectivement le sens des limites, hein, c'est-à-dire effectivement à la fois de leurs limites à eux, c'est-à-dire de ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi de ce que l'administration est capable d'accepter du point de vue de, par exemple, du fait de vivre au RMI. Donc effectivement, voilà, tenir les institutions, les rôles professionnels, et puis aussi le traitement ordinaire des usagers, comment on fait accepter des reconversions, comment on fait accepter des diversifications des activités professionnelles, etc. Je reviens un petit peu sur... juste un mot sur la méthode, effectivement, enfin, tu l'as essentiellement dit, donc ethnographie... alors, pour tenir ces trois niveaux, institutions, agents et traitement ordinaire, effectivement, donc voilà, j'ai fait des entretiens, des observations et un travail d'archives, effectivement, et je me reconnais en fait assez dans, juste pour en dire un mot, dans l'expression ethnographie socio-historique, qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle de Père Épaulé, qui disent qu'en fait, en gros, il y a une proximité, alors, qui est non seulement intellectuelle, mais aussi presque institutionnelle, entre la socio-histoire, on va dire, à la Noiriel-Auferlé, et puis l'ethnographie sociologique à la Beauvais-Bair, pour schématiser. Effectivement, il y a une proximité qui est réelle. Donc, je me reconnais assez, en fait, dans cette approche, qui, effectivement, est de dire qu'il s'agit de contextualiser non pas seulement les objets qu'on étudie, mais aussi la démarche d'enquête et les raisons qui nous... Voilà, à la fois du choix d'objet et puis de la focale d'analyse, etc. J'en viens donc juste alors sur la question sur j'ai pas été très efficace. Alors peut-être je reviendrai sur les références après. Alors je dis juste alors, sur les questions. Alors à quoi bon de les aider? Alors en fait c'est une vraie question. Je pense que c'est une phrase qui m'a été dite par un collègue qui m'a dit, en fait, quelque part, ces dispositifs, en fait, quelque part, ça sert à servir à rien, en fait, d'une certaine façon. Non, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute les artistes, typiquement, c'est là où c'est plus nuancé que de dire non, ça ne sert à rien, c'est qu'en fait, les artistes trouvent une utilité à cette forme d'inutilité. C'est-à-dire qu'en fait, ces agents spécialisés, ces dispositifs spécialisés au sein d'unités plus générales, leur permet pour partie d'échapper à un traitement qu'ils jugent stigmatisant, trop contraignant dans les agences standards de Pôle emploi ou dans les services sociaux où ils disent on se retrouve avec des gens, on n'a pas compris au premier rendez-vous, on s'est retrouvé avec des gens qui ne parlent pas français, ou avec des gens qui sont dans la misère absolue. Nous, en fait, il y a un hiatus, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là parce qu'on est vraiment... pauvre, on est là parce que, en fait, les politiques culturelles sont trop élitistes, on n'a pas notre place, mais en fait, on devrait relever des politiques culturelles, pas des politiques sociales. Donc, en fait, d'une certaine façon, ils envisagent très fréquemment ces dispositifs spécialisés comme une sorte de pis-aller, on pourrait dire, ou comme un moindre mal, c'est-à-dire qui leur permet pour partie d'échapper aux traitements dégradants, stigmatisants et trop contraignants qui s'exercent sur eux dans les administrations plus généralistes.